parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose de vous interroger avec nous sur le fait de savoir si une IA d'intérêt général sans GAFAM est possible. Je dis nous car c'est une question que nous nous sommes posée lors d'une table ronde présentielle que j'ai eu le plaisir d'animer courant décembre durant la conférence Commons AI. Nous avons enregistré cette table ronde et je vous propose d'en écouter quelques extraits. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Cause commune 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-singulier.fm, sur nos apps mobiles iPhone et Android, sur la bande FM bien sûr, 93.1 à Paris, et sur le DAB+, en version nationale, en podcast, sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous construire tous ces si beaux outils autour de la radio et de nos émissions. Chers auditeurices, nous n'avançons que grâce à vous. Vous le savez bien, désormais. Vous avez un grand pouvoir, celui du partage et du like. Et si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Nous adorons aussi vous lire dans les commentaires de LinkedIn, d'Apple Podcasts ou de Spotify. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Mi-décembre, pendant le grand événement FOST, The Future of Software Technologies, avec l'accent, anciennement intitulé Happy Days, grâce à une proposition de Mehdi Medjaoui, l'organisateur de FOST, et de l'organisation aussi du cabinet Inocube, dirigé par Benjamin Jean, a eu lieu une conférence spéciale d'une journée intitulée Commons AI, dont je vous mets le lien, bien entendu, de tout le programme en description. Cette journée de réflexion avait pour objectif de s'interroger sur la manière dont les communautés au sens large pouvaient faire de l'IA un commun. Les deux premières sessions étaient consacrées aux ressources et à la gouvernance à mettre en œuvre pour faire du commun avec l'IA. Et la troisième session, que j'avais le plaisir d'animer, s'intéressait à la manière dont les communautés pouvaient essayer de produire et d'utiliser une IA d'intérêt général sans GAFAM. J'avais la grande chance d'avoir un superbe panel d'intervenants avec Jeanne Bretéchec, vous avez déjà écouté à ce micro Parlez-moi d'IA 70, qui est fondatrice et directrice du Social Good Accelerator, qui accompagne les acteurs de l'ESS dans leur maîtrise du numérique. Jeanne sortait à peine de l'organisation elle-même d'une grande conférence de 3 jours sur le numérique en commun dédié à l'ESS. Ça s'appelle le NEC ESS, dont le thème était « Intelligence artificielle ou coopérative, créer ensemble une troisième voie numérique ». Donc c'était en plein dans notre sujet de la conférence. Il y avait également Pierre-Yves Gosset, l'un des responsables bien connus de l'association Framasoft, qui œuvre pour l'émancipation numérique et l'éducation populaire au numérique, notamment connu pour la suite logicielle libre permettant de s'affranchir des outils Google. Framasoft a aussi produit et mis à disposition une documentation de référence sur l'éducation à l'IA que l'on retrouve sur framamia.org, également un lien en description de cette émission. Bien que très engagé pour la montée en puissance des communautés dans le numérique, Pierre-Yves développe une réflexion critique sur l'usage de l'IA générative et c'est toujours très stimulant d'entendre son point de vue. Est également à la table ronde Raphaël Bournonesque, que vous avez écouté également sur Parlez-moi d'IA 85, qui est l'ingénieur IA d'Open Food Fact, ce commun qui permet de partager des informations nutritionnelles sur les biens de grande consommation. Il y avait également Jean-Marc Boredon, directeur de la communication et chef du programme de l'expérimentation IA de l'agglomération d'Annemas, et également passé au micro de Parlez-moi d'IA, numéro 74. Jean-Marc et l'équipe qui l'entoure démontrent qu'une organisation de taille moyenne comme l'agglomération d'Annemas peut expérimenter une IA open source et frugale. Bon, désolé pour cette introduction un peu longue, mais elle est nécessaire pour pouvoir vous mettre dans le contexte de cette réflexion et de ces échanges. Je sais à quel point, quand on s'interroge sur les possibilités offertes aux communautés dans le numérique sans GAFAM, on peut rapidement être fataliste. C'est pour cela que j'ai souhaité donner à cette table ronde la farouche volonté de voir le verre à moitié plein. En mode bisounours, certes, en mode bisounours assumé, mais lucide. Nous avons rappelé que nous cherchions à produire une IA d'intérêt général, c'est-à-dire utile, frugale, attachée à l'épanouissement humain et social, démocratique, participative, libre, équitable, techniquement maîtrisée et ouverte, innovante sur ses modèles économiques vertueux. Bon, cette définition, nous l'avons développée dans notre credo, le credo de Parlez-moi d'IA, que vous retrouvez sur parlezmoidia.fr. On vous remet aussi le lien en description. Cette définition, elle peut apparaître comme complètement folle ou beaucoup trop ambitieuse. Mais il faut bien se fixer un idéal pour se donner une direction et vérifier notre trajectoire. Allez, j'arrête cette intro bien trop longue pour laisser la parole aux intervenants. Désolé pour la qualité de l'enregistrement, ça a été fait un peu sur place. Tendez l'oreille, franchement, ça vaut le coup. J'ai d'abord donné la parole à Jeanne Bretéché pour qu'elle nous fasse bénéficier justement des résultats des travaux de la conférence NEC-ESS qu'elle venait d'organiser quelques jours plus tôt. La conférence portait donc en grande partie sur notre sujet du jour. Elle a commencé par nous dire quels sont les avantages des communautés dans la construction d'une IA d'intérêt général.
On a essayé de faire se rencontrer nos petites communautés d'économie sociale et solidaire. Donc, allez, si je schématise un peu, il y a d'un côté nos petits champions du numérique à nous, et puis de l'autre côté, il y a quand même le gros des troupes qui galèrent dans la transition numérique parce que pas de fric, pas de temps à consacrer à la formation ou même à la recherche du bon outil. Donc très en demande de prescriptions et bien évidemment la plupart du temps les prescripteurs qui ont les grosses machines marketing et qui proposent des discount and profit, c'est nos amis les GAFAM. Donc malheureusement voilà, c'est des très bonnes cibles. Et je rajoute à ça sur le sujet de l'IA, le fait qu'en fait comme on est tous pris à la gorge et surtout là en cette fin 2025 et carrément on se disait que c'était vraiment la merde quand même au niveau budgétaire, l'IA parfois ça paraît un super pansement pour des plaies béantes et c'est vraiment en fait on va pouvoir gagner du temps là où on n'en aura plus ou remplacer des postes qu'on va nous enlever parce qu'on ne pourra pas faire autrement et c'est assez catastrophique. Et donc moi j'ai envie de reposer la question autrement. En fait on s'est demandé finalement tout au long de ces deux journées, est-ce que c'est l'ESS qui a le plus besoin de numérique ou est-ce que c'est le numérique qui a le plus besoin de l'ESS? Et moi je dirais bien que c'est la deuxième qui l'emporte. Donc on a un gros train de retard pour les raisons que je viens d'évoquer sur le numérique, on n'est pas tout à fait à la page, mais peut-être que c'est pas grave, peut-être que ça nous rend aussi plus résilients parfois de savoir faire en ce moment. Mais par contre, on a quatre super pouvoirs historiques qui vont nous permettre peut-être de proposer des alternatives. Et proposer des alternatives, d'ailleurs, c'est peut-être un des super pouvoirs. La gouvernance démocratique, le partage équitable de la valeur, qui est quand même un des gros sujets sociétaux autour de l'IA aujourd'hui. Qui décide de tous ces gains de productivité qu'on va faire? Est-ce qu'il y a vraiment une discussion démocratique sur ce sujet? Dans les alternatives, on est aussi capable de proposer des contre-discours au capitalisme, ça c'est important. Et puis on a un fonctionnement qui est distribué parce qu'on est une somme de toutes petites structures, en général, pas toutes employeuses d'ailleurs, enfin, la large partie du monde associatif n'a pas de salariés. Mais du coup, ça nous rend incroyablement robustes parce que quand il y en a un qui meurt, bah, l'autre à côté peut reprendre. Et voilà. Et puis, donc on a un fonctionnement assez coopératif et donc on fonctionne de manière à la fois distribuée et organisée parce qu'il y a toujours des échelons intermédiaires qui permettent de mutualiser des trucs. Et donc je me dis, c'est cette architecture humaine, organisationnelle particulière qui nous donne peut-être un petit train d'avance sur l'IA parce qu'on pourrait inventer là des usages. Et je vous mets vraiment ce côté-là parce qu'on a des techos un peu, mais surtout on a des usagers. Et peut-être qu'on peut inventer des usages différents de l'IA, à la fois sur l'intégration, mais aussi sur les finalités, pour proposer des usages de l'IA qui soient véritablement d'intérêt général, utiles et qui permettent de redistribuer la valeur équitablement.
J'ai ensuite donné la parole à Pierre-Yves Gosset de Framasoft pour qu'il nous partage de manière plus frictionnelle sa vision des contributions des communautés à une IA d'intérêt général.
Je m'avais demandé d'être gentil. Alors, effectivement, moi aussi, je suis un bisounours, mais je trouve qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc, la question, c'est quoi un niable d'intérêt général? Moi, je répondrais, c'est un mythe. Voilà, boum, c'est posé, ça n'existera pas. Et donc, ma réponse à ta question est la suivante. Pour répondre à ça, j'ai deux faits et une opinion. Le premier fait, c'est que j'ai fait une conférence un peu fleuve d'une heure et demie qui s'appelle « C'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme », que je vous encourage évidemment à aller voir, et qui démontre ce que JB vient de remontrer relativement rapidement, c'est-à-dire que en fait les moyens de production, ils appartiennent à quelques entreprises. Donc quand JB disait tout à l'heure combien d'entreprises aujourd'hui font des modèles de fondation, il y en a une dizaine effectivement dans le monde, etc. Donc, premier point, on a en fait une forme d'oligopole, voire d'oligarchie, qui sont tenues soit par des fascistes, soit par des États, soit par... on va dire, je pense c'est notamment la Chine, soit par des entrepreneurs plus à la solde d'États qui eux-mêmes sont fascistes, et là je pense aux Américains et à Trump. Ça c'est mon premier point, il y a un oligopole sur à qui appartiennent les moyens de production, qui détient les data centers, qui détient maintenant même l'énergie, qui détient les réseaux, les câbles sous-marins, aujourd'hui Meta, Google ont un paquet, qui détient les données, qui détient aujourd'hui les GPU. Alors bon, il y avait Nvidia, mais Google a annoncé qu'il vendait maintenant des TPU depuis pas très longtemps. Et tout ça, enfin pour moi j'ai une formation d'économiste marxiste, et vraiment je me dis, c'est juste pas possible. Donc, premier fait, oligopole, oligarchie, fascisation du monde. Deuxième point, et là mon vécu personnel il m'amène à ça, c'est, moi ça fait 25 ans que je suis dans le libre et dans les communs en général, les communs numériques en tout cas, et on a perdu infiniment plus de batailles qu'on en a gagné. Et j'aimerais bien qu'on arrête de perdre du temps. Et donc voilà, moi ça c'est les deux faits, et donc mon opinion c'est quand même mal barré dans le monde dans lequel on vit. Donc si on mixe les deux faits que je viens de donner, à savoir que derrière l'intelligence artificielle, notamment générative, parce que c'est de ça moi dont je parle aujourd'hui, il y a un projet politique et donc idéologique. Si on se dit que les temporalités de la loi en fait va moins vite que la société, qui va moins vite que les entreprises, qui va moins vite que le numérique, et qui va encore moins vite que les entreprises qui font de l'intelligence artificielle générative, le fait qu'on arrive à réguler, là aussi j'y crois pas trop. Moi, la façon dont je vois les choses là aujourd'hui, et j'entends tout ça, et je vais essayer d'être positif, je te promets, mais c'est le Titanic cool, l'orchestre continue à jouer, et on devrait se dire, ah mais c'est quand même vachement bien les jolies notes que joue l'orchestre. Alors j'entends parler de l'édic, etc., je trouve ça très très bien, il y a plein de choses fabuleuses. J'entends parler de Apertus, effectivement, côté suisse, de Pléias, côté français, de Probable, côté Imria. Super, mais Probable, 19,5 millions, je rappelle que d'euros de levée. Je rappelle qu'aujourd'hui la capitalisation boursière des boîtes qui font de l'IA en Occident, c'est 17,7 trillions de dollars. Et donc moi la question que je pose, c'est où est passé le pognon pour les communs? Et je réponds dans la discussion, je reviendrai sur mes solutions, mais la façon dont je vois les choses, c'est pour celles et ceux qui voient un petit peu le dessinateur, l'illustrateur qui s'appelle XKCD, il a fait un très joli petit dessin avec ceci, l'infrastructure moderne, digitale, numérique, avec plein de petites choses, et ça repose sur un domino, et le domino c'est indiqué, ça c'est un mec qui travaille du fin fond du Nebraska pour 0 euro depuis 20 ans sur une brique logicielle libre. C'est exactement ce que disait JB. Aujourd'hui, qui veut financer VLC? Malheureusement pas grand monde. Qui veut financer Peertube, notre alternative à YouTube? Malheureusement pas grand monde. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est avant qu'on parle d'espoir et de solution, il va nous falloir quand même un peu de pognon. Et au NECSS, auquel je participais, j'étais invité il y a 10 jours, c'était ça en fait, c'est où est l'argent, quoi. Et si l'argent baisse, toutes les solutions qu'on pourra évoquer aujourd'hui, pour moi ça revient à se caresser le ventre, vraiment. Donc j'ai des pistes de solutions, j'en reparlerai sans doute tout à l'heure. Mais
après cette intervention de Pierre-Yves Gosset, qui remet bien sûr les points sur les i, et qui rappelle les grosses contingences financières de l'écosystème IA, j'ai passé la parole à Jean-Marc Borédon, de l'agglomération d'Admas, qui était déjà venu à ce micro présenter toutes ses réalisations, Et il a une vision finalement émancipatrice de l'éruption de l'IA dans nos vies professionnelles.
Je crois que l'IA, elle a déclenché quelque chose, en tout cas pour notre territoire, pour le territoire pour lequel je travaille. On a pris conscience en fait qu'on était un petit peu prisonnier de tous les éditeurs d'informatique. En fait, hein, les collectivités, les entreprises sont prisonnières de ça. Et je trouve que l'IA nous a fait prendre conscience que bah, du coup, on pouvait peut-être reprendre un peu de pouvoir sur nos données. Je vous donne un exemple très concret là aujourd'hui. Dans la collectivité, on a un intranet avec une base de données. L'éditeur ne souhaite pas me donner accès à la base de données. Et il trouve tous les prétextes techniques, bien entendu, pour ne pas me donner accès à la base de données. Alors, bien entendu, moi, je vais y arriver et je vais plugger une IA dessus. Voilà. Puisque notre objectif, c'est de reprendre le pouvoir sur nos données. Et je trouve que les communautés et l'open source dans le monde de l'IA nous redonnent un petit peu d'élan, d'espoir, un petit peu de souffle. Peut-être un petit peu d'indépendance par rapport à tous les éditeurs, encore une fois, je leur envoie un petit peu, parce qu'ils nous prennent pour des vaches à lait, voilà, je tiens à le dire. Et la moindre mise à jour, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, et puis en plus, ils mettent de l'IA partout maintenant, et ce sont de véritables boîtes noires, comme le disait le monsieur de Scalway juste avant. On ne sait absolument pas où vous nous donnez, ils nous garantissent de la souveraineté, alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. Et donc, je crois qu'il est temps, en fait, en tout cas, nous, c'est notre philosophie, d'essayer de reprendre la main sur nos données. Et donc, du coup, c'est pas tant essayer d'être techniquement fort. L'objectif, c'est d'avoir une forme de souveraineté sur la data. Et qui est une souveraineté, du coup, pour moi, cognitive. Parce qu'en réalité, l'IA, moi je dis toujours, si vous avez dans une collectivité des agents qui utilisent ChatGPT pour rédiger des délibérations, ok, donc ça va avoir une forme d'hybridation. Vous allez avoir peut-être des délibérations qui seront rédigées à 70% par l'IA, à 30% par l'humain. Mais au final, ces 70%, ils viennent d'où ? Des données d'entraînement dont on a parlé, qui sont majoritairement anglo-saxonnes, et puis d'un système avec des valeurs. Et petit à petit, on va avoir du coup de notre information, qui est stratégique, qui va être de plus en plus imprégnée. Et on ne va pas le voir, ça. Et je pense que c'est stratégique, en fait. Du coup, l'IA nous a permis de faire ça. Et donc, du coup, on a assemblé des briques open source, pour répondre à ta question. En fait, moi, je me suis rendu compte en plongeant dedans. Alors, j'ai étudié un petit peu le traitement automatique des langues il y a quelques années. Hein, je ne suis pas que dire comme. C'est pour ça, en fait, que j'ai mis le nez dedans. Et je me suis rendu compte que dans le monde de l'open source de l'IA, il y avait énormément de briques et qu'on pouvait les assembler. Et qu'en les assemblant, on pouvait essayer de comprendre comment ça fonctionnait un petit peu. Donc on parlait d'inférence, donc nous on a monté notre propre GPU, en fait, qu'on allume que le matin et qu'on éteint le soir pour des raisons écologiques et économiques, par exemple. On a monté notre propre système de RAG sur une petite GPU. Voilà, on essaie vraiment de comprendre la technique pour aller vers la donnée, et notamment pour savoir manipuler la donnée, faire un RAG de qualité, par exemple. Là, on s'apprête tout doucement à essayer de développer des agents en toute modestie, hein, parce que j'aime pas trop ce terme quand on voit là, c'est un peu la tarte à la crème ce truc-là. Mais on essaie quand même d'aller vers ça. Donc, par exemple, on est en train de développer un RAG sur l'ensemble des délibérations de la collectivité. Ça représente des dizaines et des centaines de documents. Et l'objectif, c'est d'apporter une IA où on maîtrise toute la chaîne de valeur et qui permette d'apporter une plus-value. Pour nos agents publics.
Pendant son intervention, Jean-Marc parle de la mise en place d'un RAG. Pour rappel, il s'agit d'un dispositif technique où vous fournissez à un modèle d'IA un package de documents de référence et le modèle va se concentrer sur l'usage de ces documents, en plus de son corpus d'entraînement, pour vous répondre et interagir avec vous. Il vous donne des réponses normalement beaucoup plus ciblées et le témoignage de Jean-Marc montre que des solutions certes modestes existent pour s'affranchir des GAFAM quand on est un acteur volontaire, même de taille moyenne. Donc autre exemple qu'on va écouter, celui d'Open Food Facts avec Raphaël Bournonesque, ingénieur IA, qu'on avait déjà écouté au micro de Parlez-moi d'IA, pour qui la notion de communauté justement est essentielle, à la fois pour construire le commun Open Food Facts, et bien sûr pour l'utiliser. Son témoignage est un peu plus technique, vous allez voir, mais on va essayer d'expliquer les notions juste après.
Ce qu'on fait, nous, c'est on récupère des données de la part contributeur, que ce soit via notre propre site et propre application, mais aussi de la part d'applications tierces qui réutilisent nos données et qui, pour le coup, versent au bout commun en nous envoyant des photos et des données.
Tu rappelles, du coup, parce que l'OpenStack, souvent, là, je...
C'est une base de données de produits alimentaires.
C'était pas évident pour nous.
C'est une base de données de produits alimentaires, c'est un peu le Wikipédia de l'alimentation. Donc, pour des produits que vous avez en supermarché, il y a la liste d'ingrédients, les informations nutritionnelles, des photos. Et donc ça permet donc de calculer le Nutri-Score, de calculer un score environnemental, de donner des conseils personnalisés. Donc il y a beaucoup d'applications qui aujourd'hui réutilisent nos données pour avoir des, pour fournir aussi bien aux équipes de recherche, enfin nous c'est ce qu'on fait en tout cas, on fournit des données aux équipes de recherche pour par exemple étudier le lien entre alimentation et santé, et aussi en termes d'information consommateur. Donc l'IA, nous, ça a commencé en 2018 avec des modèles de catégorisation de produits. On a développé plein de modèles, mais c'est des petits modèles. On ne parle pas du tout de LLM là-dessus. C'est de la classification d'images, c'est de la détection d'objets sur des images. Donc tout tournait sur CPU jusqu'à très récemment. Là aussi, pas du tout. On vient de passer sur un petit GPU pour faire tourner ces modèles-là. Et il y a la vague, en effet, d'IA générative, et notamment, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'analyse d'images. Donc il y a un an, GPT-4V était franchement pas terrible. Aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant, les nouveaux modèles LLM visuels. On va, je pense, bazarder toute notre stack technique avec un seul, potentiellement un seul modèle ou plusieurs modèles fine-tunés. Mais il y a vraiment, ça va extrêmement vite, les performances vont extrêmement vite, et c'est un des points sur lesquels je voulais revenir. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un modèle à 600 milliards de paramètres qui tourne. Aujourd'hui, des modèles entre 7 et 15 milliards font sur la plupart des tâches bien mieux que GPT-3.5 que tout le monde utilisait il y a un an. Ce qui est fou, parce qu'en fait, sur un GPT de taille moyenne aujourd'hui, on prend une H100 par exemple, on peut faire tourner des modèles qui sont meilleurs et qui pour le coup coûtent moins cher que GPT-3.5, voire même que d'autres modèles plus récents, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Il y a beaucoup de choses qui sont pas très positives sur l'évolution de l'IA générative en ce moment, mais c'est quelque chose que je trouve... Un des points que je trouve positif, c'est que c'est faisable d'être autonome sur ces... Ça dépend des sujets, bien entendu, mais sur beaucoup de sujets, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des modèles extrêmement gros. Il y a la deuxième partie que je voulais aborder, c'est la question du prix. Même faire tourner un petit modèle aujourd'hui, il faut une H100, de mémoire, j'ai pas les prix en tête, mais je crois que c'est 2,50$ de l'heure, la H100.
Ça peut être un peu moins, mais.
Voilà, donc.
$2
de l'heure, fois 24 heures, on est sur du 48, fois 30 jours.
C'est un ami.
Voilà, on est sur 2300 dollars par mois, ce qui est quand même un gros budget par rapport à des prix de serveurs classiques, et ça, c'est pour faire tourner des petits modèles. Donc en fait, c'est quoi le... Comment est-ce que on rentabilise ça par rapport à utiliser des API d'IA générative où les prix sur ce type de modèle est planché? Les fournisseurs cloud, leurs GPU sont utilisés à 70 ou 80% en permanence. Donc en fait, c'est via le volume. Et là, lancer sa machine avec son GPU et son petit modèle dans son coin, la plupart du temps, on est à 0%, 90% du temps en termes d'utilisation. Donc pour que ça soit rentable, il faut qu'il y ait une forme de mutualisation dans tous les cas. Et il y a le troisième point que je voulais aborder, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus dans cette conférence. Où sont les fournisseurs français? Où sont les fournisseurs européens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur des modèles open source, on va sur OpenRouter, il n'y a aucun fournisseur qui sont en France. Il y a Mistral, en effet, c'est le seul qui existe. On peut utiliser le modèle Mistral en France. On peut utiliser éventuellement, sur Google Cloud, lancer l'instance de LLM avec des modèles open source, mais ça tourne sur l'infrastructure Google et c'est nous qui payons l'instance. Et ça, c'est un problème parce que aujourd'hui, on veut faire, même on veut utiliser des petits modèles localement avec un mix énergétique qui est plus favorable qu'au sud de la France par rapport aux États-Unis, c'est très compliqué.
On verra que Jean-Marc répond au questionnement de Raphaël sur quel acteur français ou européen peut venir soutenir finalement cette mutualisation des modèles. Ça sera un peu plus tard, même plutôt vers la fin de notre émission. Ensuite, j'ai souhaité profiter en fait de la présence du profil d'économiste de Pierre-Yves Gosset en lui faisant faire un peu de prospective et en le projetant dans un monde où la bulle des investissements fous de l'IA risque d'exploser.
Pour moi,
mois, est-ce qu'il y a eu lieu ? Oui. Est-ce qu'elle va exploser ? Oui. Est-ce que ça va être bientôt ? À mon avis, oui, relativement vite. La problématique derrière, il va y avoir, du coup là c'est l'économiste qui parle, il va y avoir une correction du marché. Est-ce que cette correction sera forte ou pas forte ? Là par contre, j'ai pas du tout de boule de cristal, mais ce qui est clair, c'est que le modèle aujourd'hui des big tech, c'est de vous rendre dépendant à l'IA en mettant gratuitement de partout, y compris là on n'en a absolument pas besoin, et qu'une fois qu'on sera bien dépendant et qu'on vous aura dit que c'est ça l'avenir de l'humanité, il faudra passer à la caisse.
Et tout ça, qu'est-ce que ça change en fait pour les utilisateurs finaux, notamment dans nos capacités à nous réorganiser et à faire autrement ? Pour le coup, Pierre Yves a une idée originale à soumettre sur un sujet comme celui-là.
Est-ce qu'il existera, pour répondre à ta question, des façons de faire autrement ? Oui. Moi, ce que j'ai proposé un projet un peu taré à Framasoft, on m'a regardé en disant « non, tu déconnes ». Moi, je voulais faire une salle de shoot de l'IA, avec du coup, par exemple, on installe DeepSeek. Les gens, ils arrivent sur le site Frama, Bidule, IA, et puis on met des dark patterns. Quand les gens vont pour saisir leur prompt, ça leur dit « Attends, est-ce que tu as déjà été chercher si la réponse n'existait pas sur Wikipédia ou machin ?» Et est-ce que tu pourrais pas, quand il va pouvoir cliquer sur « Envoyer son prompt », ça déclenche. Tu es sûr de vouloir griller l'équivalent d'un chargement de smartphone juste pour pas lui poser ta question, etc., etc. Et je trouve que juste... une façon qu'on a, c'est, là du coup c'est le représentant d'associations d'éducation populaire qui parle, mais c'est via l'éducation et via la responsabilisation qu'on arrivera à faire avancer les choses.
Cette idée n'est pas aussi farfelue que cela en a l'air. Je vous renvoie encore une fois vers la conférence de Pierre-Yves Gosset. Ce n'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme. Il y développe son point de vue sur la difficulté de s'extraire de la mainmise des GAFAM sur l'écosystème IA. Bon, notre émission, elle est limitée dans le temps. Je ne peux pas vous mettre tous les extraits de cette conférence dans cette émission. Nous sommes ensuite repartis, pour conclure, sur des considérations un peu plus techniques, notamment sur les mises en œuvre de Jean-Marc Boredon à Annemasse. Et il a voulu préciser qu'on pouvait faire appel à des fournisseurs de solutions européens solides et non GAFAM. C'était pour répondre aussi à la remarque de Raphaël.
On a trouvé une start-up en Finlande, donc en Europe, RGPD compatible, ok, et ça marche du tonnerre, à des prix super abordables. Donc en fait, il existe des pépites un peu à droite à gauche.
Je parlais de fournisseurs d'API.
D'API, en fait, vous avez en Suisse, Infomaniac aussi. Il y a plein de solutions pas chères qui fonctionnent. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a des choses qui
existent.
Ouais, Infomaniac fait de l'API. Ouais. Voilà, c'est juste.
Il a aussi voulu rappeler l'importance d'expliquer autour de soi en quoi la souveraineté et la frugalité des outils sont importantes en repartant de son cas de collectivité locale.
Moi, j'ai en face de moi des agents publics en fait, qui ne comprennent même pas pourquoi ils ne peuvent pas utiliser ChatGPT. On en est là. La réalité, elle est là. C'est pourquoi tu m'imposes ton Mistral Small là ? Il est tout nul. Il est tout nul, mais attends, il est souverain, il est sobre. D'accord. Donc peut-être qu'il faut que tu t'intéresses aussi à où vont les données, qu'est-ce que tu fais avec tout ça. Et je pense que, on n'a pas éduqué les salariés ou les agents publics, je ne sais pas comment il faut les appeler, au sens large du terme. On a tout délégué à un allié qui n'en est plus un, aux Américains. On est en train de se rendre compte que, on n'a aucune culture du numérique, aucune culture de la donnée. Il y a beaucoup d'agents qui ont un souci écologique. Beaucoup de personnes qui ont un souci écologique aujourd'hui. Quand on leur explique que le projet d'OpenAI, c'est, je crois, 200 gigawatts en 2030 ou je sais pas quoi, enfin, c'est 200 centrales nucléaires, je crois, je sais plus. C'est juste de la folie furieuse, c'est de la folie pure en fait, en termes d'un point de vue énergétique. Donc là, du coup, quand on fait de l'éducation, et nous, c'est ce qu'on fait dans la collectivité, en plus du chatbot qu'on a mis en place, c'est qu'on fait des petits cafés IA à notre sauce, où on essaie d'éduquer, de sensibiliser à ces questions-là. Et du coup, ils acceptent mieux d'utiliser un outil qui est peut-être un peu moins bling-bling, addictif, super waouh comme ChatGPT.
Et voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle émission de Parlez-moi d'IA. Et on vous a emmené sur la table ronde « Une IA d'intérêt général sans GAFAM est-elle possible ?» lors de la conférence Commons AI. C'est l'heure de conclure cette émission. Merci à Mehdi Medjaoui, également à Benjamin Jean et à Célia Gruson-Daniel du cabinet InnoCube pour l'organisation de cette conférence. Merci aux intervenants également. Je retiens de cette table ronde que tout en gardant une grande lucidité sur le manque de financement du tiers secteur et l'écrasement écrasante avance des GAFAM dans les solutions proposées, il est possible de suivre et de commencer à développer des initiatives souveraines, frugales, utiles, mutualisées, souvent proches du secteur public local et de l'open source. L'avance technologique financée à coups de milliards commence à ralentir sa course. Le rattrapage technologique des grands modèles GAFAM n'est pas si loin, surtout si on sait spécialiser nos usages avec des petits modèles frugaux auxquels on éduquera nos utilisateurs pour que la valeur continue de rester du côté de l'humain éclairé et lucide. Bon allez, j'arrête là l'envolée lyrique. Vous avez compris le message, une autre IA d'intérêt général est possible si on s'en donne collectivement les moyens. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute de cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.